Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Accounting Business Club, le podcast dédié pour les experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable et tout l'écosystème. Aujourd'hui, un épisode que je suis encore très très heureux de faire puisque je reçois deux invités que je connais bien, que je suis ravi de recevoir aujourd'hui. Je reçois François Saunier et Cédric Alves, les cofondateurs du cabinet Rallye Conseil, cabinet particulier, et on va le voir aujourd'hui. Beaucoup de sujets à traiter ensemble, messieurs, à la fois des petits retours sur la création du cabinet, à la fois comment vous gérez un cabinet d'expertise comptable et de DAF externe, comment vous gérez un cabinet au Portugal, quel est l'état de la comptabilité au Portugal du marché, et enfin, gros sujet qu'on va voir ensemble, puisque aujourd'hui vous êtes une quinzaine de personnes, comment vous gérez le full remote puisque vous êtes entre la France, le Portugal, il y a tout le monde un peu partout et du coup bah, il faut savoir, je suis vraiment preneur de vos retours sur comment vous organisez tout ça. Beaucoup de choses, gros agenda aujourd'hui, on est ensemble pour une bonne heure hein, parce que vu le nombre de sujets à mon avis, on est là pour une heure. Messieurs, bonjour.
Salut.
Salut Alexis.
Je vous laisse vous présenter.
Vas-y Cédric.
Yes, donc, moi c'est Cédric Alves, donc je suis expert comptable, fondateur du cabinet Rallye Conseil. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a un cabinet également au Portugal sur lequel qui est axé, on va dire, principalement clients français qui souhaitent s'installer au Portugal. Et on a également un autre cabinet qui nous permet de faire toute la production comptable en vérité pour nos clients français.
Ok. Qui est organisé, donc tu as le cabinet franco-portugais, le cabinet français qui fait de l'expertise comptable et qui fait du DAF externe, ce qui me permet de te passer la parole, François.
Sans transition, bien sûr.
Bien sûr.
Donc moi, François Saunier, cofondateur du coup avec Cédric de Rallye Conseil, qu'on a fondé il y a 2 ans, à peu près dans quelques semaines même.
Dans quelques semaines, jours, effectivement.
Quelques jours, le 8 juin, je crois, donc c'est dans 8 jours qu'on tourne cet épisode. Et donc effectivement, moi, je porte la partie DAF externe, que j'appelle aussi consultant sur les services financiers des entreprises. Donc ça va être très large, ça va être du remplacement du directeur comptable, du responsable du contrôle de gestion, de l'amélioration des process financiers en général.
Ok. Quel a été le parcours avant pour qu'on comprenne bien pourquoi les deux offres dès la création?
Alors on s'est connus chez KPMG avec Cédric. Donc on a bossé dans un service qui s'appelait le service externalisation. On travaillait en fait pour des grosses PME ETI et on faisait justement tout de A à Z, de la saisie jusqu'au reporting ou la direction générale. Après, moi, je suis parti dans un cabinet qui s'appelle Cefi Connexia et je faisais des missions de support opérationnel aux directions financières.
Ok, donc toi, tu es resté sur tout cet aspect DAF.
Tout à fait.
Et moi, une fois qu'on est parti de chez KPMG, je me suis concentré, on va dire, sur un accompagnement dirigeant chez GVA, donc sur Paris, dans lequel j'étais, on va dire, un peu plus en mode expertise comptable classique que François. Mmh. Et du coup, en discutant, parce qu'on a toujours été en contact, on s'est rendu compte que les deux offres étaient complémentaires et pas forcément séparées et travailler, on va dire, avec des partenaires. C'est vraiment, on pense réellement que le cabinet peut encore mieux fonctionner avec ces deux offres-là.
Vous pouvez passer la balle à la fois capter sur du DAF externe, récupérer la partie expertise comptable et à la fois récupérer la partie expertise comptable et être capable d'accompagner les clients dans leur croissance ou en répondant à leurs besoins sur la partie DAF externe.
C'est exactement ça l'idée de la création.
L'idée, c'est complètement ça. Aujourd'hui, le canal est plus dans un sens que dans l'autre. Mais le but, c'est vraiment de réussir à le faire fonctionner dans les deux sens, on va dire.
C'est dans quel sens, là, aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est plus la partie expertise comptable qui alimente, on va dire, la partie DAF externe.
OK.
Ce qui est normal aussi, puisque sur les missions de DAF externe, on va dire que les compétences sont beaucoup plus hautes. Et je considère, et je pense que François me rejoindra, que réussir à capter du client sans avoir la confiance initiale, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc c'est sûrement, à mon avis, un des sujets de pourquoi, pour l'instant, ce canal fonctionne mieux que l'autre.
Ouais, mais intéressant, parce que ça veut dire que tu arrives à transformer des dossiers d'expertise sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Largement.
Ouais, et puis en fait, je pense que la cible n'est pas aussi la même. C'est qu'en expertise comptable, on est sur des clients plus petits. Mmh. Donc c'est plus facile de dire, on peut te faire un truc en plus qui est de l'accompagnement en direction financière, tu as un petit besoin de tableau de bord, etc., on peut te le faire facilement. L'inverse, c'est que moi, ma cible première sur la DAF externe, ça va être des grands groupes qui font 100 millions, 500 millions, 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc quand on est dans ces groupes-là, exactement, easy, quand on est dans ces groupes-là, bah, beaucoup plus dur de filer la balle à Cédric et lui dire tu vas faire de l'expertise comptable pour un groupe du CAC 40. Quoi.
Ouais. Même si j'aimerais bien, on est bien d'accord, mais ça marche pas comme ça.
Bah, le cabinet existe depuis 2 ans, soyons patients. Est-ce que le fait d'avoir les deux ruisselle au niveau des équipes sur la culture conseil?
On aimerait bien.
On aimerait bien, mais c'est pas si simple que ça.
Ouais.
On va dire. Enfin, le problème, c'est que je pense que les collaborateurs qui ont pas forcément, qui ne sont pas forcément experts comptables ou en train de devenir experts comptables n'ont pas forcément cette appétence déjà de base.
Ouais.
Et mine de rien, notre profession, elle est pas, on n'est pas les meilleurs dans la com, quoi. Donc du coup, réussir à faire en sorte, voilà, faire en sorte qu'ils aient cette appétence, c'est un peu plus compliqué, quoi.
Ok.
Ouais, okay. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu de notre faute aussi, c'est qu'on l'a séparé volontairement au départ en disant il y a deux associés qui traitent chacun leur partie, et on a recruté à chaque fois quelqu'un qui devait être chacun dans un service, qui était d'abord totalement sous ma hiérarchie, totalement sous la hiérarchie de Cédric. On s'est jamais dit qu'il y avait à un moment donné une mutualisation des équipes avec quelqu'un qui faisait les deux, parce que je pense que notre taille ne permettait pas au départ. Il fallait vraiment qu'on structure en ayant chacun nos personnes dessous. Peut-être que effectivement, dans quelques mois, quelques années, qu'on aura encore atteint une autre taille, ça sera plus facile de se dire, je prends quelqu'un qui est mixte sur les deux activités, et là, ça va permettre de créer du lien. Tant qu'on n'a pas atteint cette taille, je pense que c'est beaucoup plus difficile.
Ouais. Après, je suis d'accord sur le principe, mais je pense que tu as aussi une difficulté, on va dire, à le faire. Je l'ai vécu parce que je faisais de l'audit et de l'expertise comptable. Même si c'est le même métier, ça reste deux activités différentes. Et en fait, il y en a une où on a une pression fiscale énorme, l'autre où on l'a pas. Et mine de rien, même si tu essaies de te mettre en tant qu'expert comptable qui souhaite sortir de cette pression fiscale et d'accompagner ton client, elle existe. Elle existe, et tu peux pas dire à un mec pendant 5 jours, tu vas être full chez un client en DAF externe, alors que derrière, il a 50 dossiers avec des TVA à sortir la semaine suivante. C'est un peu dur, jouable, mais un peu dur.
Mais tu vois, on commence à le faire sur des dossiers plus petits. Là, on est en train de lancer une offre qui est un peu office manager. Et justement, sur cette offre office manager, là, pour le coup, on arrive à transformer des gens qui font de la saisie comptable, à aller un peu plus loin, à faire du recouvrement client, à faire du paiement fournisseur, à des idées sur des petits tableaux de bord très simples, justement, sur combien tu as de créances client, comment on a évolué la créance client, etc. Et je pense que sur ces missions-là, qui sont un peu plus bas de gamme, enfin pas plus bas de gamme, mais plus opérationnel, simple, plus simple, là, il y a des besoins et on va arriver à le faire. Mais sur des missions, effectivement, en remplacement d'un directeur du contrôle de gestion, on n'arrivera pas à mixer.
Ça, parce qu'en fait, ce que toi, tu fais en DAF externe, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a eu, j'ai reçu Anthony Guez aussi, où on a parlé des missions de DAF externe, ce que c'était, comment ça se réalisait, pour qui ça se réalisait, du moins pour qui lui le réalise. Là où toi, tu interviens, là où Rally intervient, c'est vraiment plus sur du DAF externe grand compte. Donc dans ce cas-là, c'est important de le préciser, c'est pas les mêmes missions.
Effectivement, avec Anthony, on fait pas du tout la même chose en soi. Ouais. Moi, je suis vraiment plutôt PME-ETI. Anthony fait plutôt de la start-up et accompagnement sur des levées de fonds et fait plein d'autres choses.
Ouais.
Mais la cible de client est pas du tout
c'est pas du tout la même chose.
Mais je trouve qu'il y a une culture quand même, tu vois, du culture conseil, et c'est intéressant de voir que, mine de rien, ça développe sur une nouvelle offre qui, l'office management, est un début. Une porte d'entrée en fait pour la culture du conseil,
ouais, quoi. Tout à fait.
Parce que c'est le conseil qui attend opérationnel, parce qu'en effet recouvrir le cash c'est quand même important et tous les entrepreneurs n'ont pas le temps de le faire.
Mais tu vois, depuis qu'on a lancé cette offre là, parce que c'est super récent, c'est même pas un mois on va dire, on se rend compte que ça a vraiment une vraie valeur ajoutée, et que ça soit d'un point de vue expertise comptable où en réalité j'étais déjà proche du client, mais ces missions là on va dire qui s'ouvrent font qu'en réalité on fait partie de l'entreprise réellement maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, même si on le disait, enfin en réalité l'activité on la connaît pas aussi bien que quand on rentre vraiment dedans sur la partie justement recouvrement, qu'on voit les problèmes qu'ils ont sur ces parties là on va beaucoup plus loin, et en réalité en termes de confiance avec ton client, je pense que il a encore plus de mal à se dire, tiens, et si je changerais d'expert comptable? Tu vois, c'est du fait qu'on aille vraiment plus loin.
Ouais, tu renforces totalement la relation humaine, et puis tu l'inscris pour le coup avec une vraie périodicité qui n'est pas celle de demander les éléments comptables. Exactement. Pour faire la TVA, quoi.
Exactement.
En fait,
Exactement.
Tu replaces ton client en tant que client et non l'État en tant que ton client, quoi. Ce qui peut arriver.
Exactement.
Quand
non, mais
quand
c'est exactement
quand
ça.
Tu places purement et simplement de la prod, la prod comptable, parfois, malheureusement, c'est un peu comme ça, quoi.
C'est exactement ça. Et on le voit. Enfin, je m'entends hyper bien avec les deux clients sur lesquels on a lancé, on va dire, cette partie de mission. Mais je me rends compte que depuis un mois et demi, là, depuis qu'on est rentré dans dans ces missions-là, ça, on a passé de cap, quoi. Vraiment, vraiment passé de cap. Et je suis persuadé que du moins sur un des deux, dans pas si longtemps que ça, les missions, on va dire, beaucoup, à beaucoup plus forte valeur ajoutée que François fait pour du grand compte, on va leur proposer et ils vont être attirés par ce type de mission-là. Mmh. Ça, j'en suis persuadé. Après, il faut prendre juste le temps. Mais
faut être patient, voilà, tu la testes. Et puis, ce qui est intéressant, tu as dit un truc, c'est que là, aujourd'hui, les clients, c'est toi qui les connais, tu les connais bien personnellement, mais là, ça te permet de rentrer plus de monde dans l'équipe, plus de monde intégré, quoi. Ça te sort un petit peu, mine de rien, de la relation.
Ce qui me va carrément.
Évidemment, c'est là l'avantage du travail d'équipe.
Ah non, mais oui, pour le coup, c'est super. Enfin, quand je vois François et les équipes, Véronique est au milieu qui travaille en expertise comptable, et du coup, avec François sur ces missions-là, parler en direct avec les clients sur les deux dossiers, moi je suis content. Hein, parce que du coup, ils me ramènent de l'info que je n'ai pas forcément sur la partie comptable. Et du coup, ça permet vraiment de me soulager et d'être plus efficace en plus de ça.
Et en plus d'aider l'expertise comptable, parce que Véronique, elle fait la saisie en même temps que du client. Donc, toute la partie recouvrement, ça l'aide à faire sa saisie à elle. Là, demain, elle va faire les paiements fournisseurs pour ce client-là. En fait, les paiements fournisseurs qu'elle va le faire, on utilise beaucoup PennyLane, donc elle veut utiliser le compte pro PennyLane. Du coup, toute cette partie de saisie, de lettrage, etc., en fait, elle le fait déjà dans sa mission d'Office Manager.
Un vrai win-win. Ok, donc intéressant ce feedback sur la mission d'Office Manager. On va revenir un petit peu en arrière. Vous l'avez dit, le cabinet a 2 ans. Vous êtes une quinzaine aujourd'hui au sein du cabinet, partout en France et au Portugal. Donc, il y a des vrais sujets. Est-ce que, ou plutôt je dirais, quelles sont les erreurs ou les petites difficultés que vous avez pu rencontrer à la création du cabinet qui, du coup, a eu une forte croissance, puisque quand on passe de 0 à 15 en 2 ans, forcément, ça signifie une petite croissance. Donc, quelles erreurs on pourrait éviter à l'audience?
Je pense que, alors, peut-être que Cédric en trouvera une, mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait trop d'erreurs jusqu'à présent. Mais je pense que là, les difficultés, on commence à les voir maintenant.
Ouais.
Parce qu'au fait, au démarrage, ça s'est créé un peu naturellement comme ça. On était à la sortie du Covid. Mmh. Le Covid avait un an de sortie, mais on sortait du Covid. Les collaborateurs qu'on a recrutés, on les connaissait tous. Donc c'était facile ils savaient comment on bossait, etc. Donc ça, c'était simple. Là maintenant, depuis 6-8 mois, on recrute des personnes qui sont totalement extérieures, qu'on connaissait pas du tout avant. Et c'est là où ça devient plus dur, parce qu'il y a des gens qui nous disent oui au remote au départ, et puis en fait qui se rendent compte que c'est quand même compliqué d'être 5 jours sur 5 sans contact physique, enfin sans pouvoir parler autour d'une machine à café. Et donc là, c'est effectivement ça qui est peut-être plus dur aujourd'hui à voir, et sur lequel il faut qu'on arrive à trouver la bonne fenêtre pour savoir comment on fait pour à la fois garder ce qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire on a un cabinet full remote, parce que ça a plein d'avantages sur le recrutement. On peut recruter partout en France, partout dans l'Europe, peu importe. À un moment donné, il faut juste que les gens ils parlent français et des notions de comptable, mais on peut recruter partout dans le monde, donc c'est quand même beaucoup plus facile.
Vous n'avez pas de règles de fuseau, time zone, ouais.
Ouais, mais si, bon, aujourd'hui, on ne se pose pas la question, parce qu'effectivement, on va recruter que sur des trucs vraiment en France-Portugal aujourd'hui. Déjà,
c'est déjà bien.
Déjà, ouais, ça me donne un panel qui est quand même beaucoup plus grand. Et donc, c'est aujourd'hui, en fait, qu'on arrive à trouver les voies pour arriver à garder la productivité qui est bonne. Et je pense que c'est là-dessus où on voit avec Cédric qu'on commence un petit peu à peut-être être un poil moins productif que d'autres. Et encore qu'en fait, ça dépend des moments, etc. Donc ça, il faut qu'on arrive effectivement à trouver des petits trucs. Nous, je pense que ce qui est vraiment important, l'erreur qu'on a peut-être fait quand même au départ, c'est que le tableau de suivi des temps, on a mis du temps à le mettre, on a mis du temps à le mettre en place. Et donc, du coup, on a perdu à un moment donné, on n'avait pas de visibilité. Et donc ça, c'est vrai que c'est pour le coup, quand peu importe le cabinet, c'est hyper important pour suivre la rentabilité du client. Mais nous, ça a encore une autre importance, c'est que c'est une importance en termes de productivité, pour comprendre vraiment ce que le collaborateur il fait, parce qu'on n'est pas derrière lui, personne c'est derrière les gens, mais on n'est pas derrière lui, et donc du coup on a besoin de ça pour vraiment savoir la productivité de la personne.
Ouais, après à la limite en erreur, j'ai envie de te dire, ça sera pas sur du recrutement, parce qu'effectivement, tu prends les 4 premiers recrutements, c'est des gens qu'on connaissait vraiment, donc du coup quand ils nous ont suivis, c'est facile, on connaît les personnes, soit on a déjà travaillé avec eux, soit on les connaît personnellement en dehors du travail. Donc bon, sur la partie recrutement, on n'a pas forcément eu de sujet. Après, au début, on s'est équipé de pas mal d'outils de manière globale. Et forcément, sur les outils qu'on a utilisés, il y en a certains qui ne nous ont pas convenus. J'ai envie de te dire qu'on a peut-être perdu un peu de temps là-dessus. Mais en même temps, ça semble essentiel, on va dire, de les tester.
Bah ouais, c'est du temps indispensable.
Voilà,
quoi.
Exactement. Donc c'est pas vraiment une erreur, mais j'ai envie de te dire que si aujourd'hui on avait su que c'est tel ou tel outil n'était pas important pour nous, j'ai envie de te dire, on aurait perdu un petit peu moins de temps et on l'aurait consacré ailleurs. Quoi.
Ouais, c'est la limite. Sans le tester, tu peux pas savoir.
Exactement, façon, exactement. Mais c'est à la limite le seul point de départ où je me souviens où on a passé un peu de temps, on va dire. Après, effectivement, les difficultés, elles sont maintenant. Enfin, en dehors du fait qu'on recrute des gens qu'on ne connaît pas maintenant, t'as une autre difficulté, c'est qu'on est 15. Ouais. Et quand tu gères 4-5 personnes en télétravail, en full remote, c'est jouable, on va dire. Quand t'en gères 15...
T'as mis en place des plannings de présence ?
Ouais, on a mis en place un planning de présence parce qu'au début, en fait, on contrôlait pas les...
Quand à 5, tu savais.
Ouais. Oui, à 5, je savais ce qu'ils faisaient. À aucun moment, je m'en foutais complètement que le mec bosse de 5h du matin à 8h du matin ou à 23h le soir jusqu'à 2h du matin, du moment que, entre guillemets, en termes de contrat, on soit dedans. Le problème, c'est quand tu commences à une dizaine, quinzaine, stratégiquement, quand tu as besoin de parler avec quelqu'un et qu'au final, tu sais pas s'il est en train de bosser, s'il n'est pas en train de bosser, soit il va avoir de l'abus par certains, ou soit toi, quand tu vas avoir besoin d'une réponse tout de suite, il n'y a personne pour te la donner. Donc à un moment donné, on a mis un peu plus de règles, parce que ça date de cet été, cette règle-là pour le coup, un peu plus de règles en place dans lesquelles on dit, il y a une journée de 12 heures, on va dire, de telle heure à telle heure, il faut en faire X... Il faut faire, je sais pas moi, c'est 6 heures, je crois, sur les 8 heures, sur ce planning-là, on va dire, sur cette tranche horaire-là. Le reste, vous le mettez où vous voulez. Ce qui nous permet, en fait, de savoir où sont les collabs, concrètement, et surtout parce que ça m'arrivait régulièrement d'envoyer un texto, d'envoyer un WhatsApp, parce qu'on communique beaucoup sur WhatsApp avec les équipes, ou même un Teams, pendant les temps où les collaborateurs ne bossaient pas. Donc, quelque part, je leur demandais doucement de revenir au boulot, même pour eux, c'était pas sain. En dehors de pour moi, c'était compliqué à gérer, mais pour eux, c'était pas ça non plus, quoi.
Donc là, vous avez mis en place, puisque du coup, tout le monde est à distance, vous avez un planning où tu sais quand est-ce que la personne est dispo. Et à ce moment-là, exactement, ça t'évite, enfin, du moins, ça te permet de lui garder la tranquillité d'esprit au moment où il bosse pas. Tout le monde a l'info.
Exactement.
À l'info. OK. Et alors, qu'est-ce que vous auriez fait différemment depuis la création?
Je pense qu'au début, là, je vais parler pour moi. Tu sais, t'as toujours peur du non-chiffre d'affaires. Quand tu te démarres de rien, tu te dis, faut vraiment que je rende du client. Et je pense que sur les premiers dossiers qu'on a eus, il y en a certains où si c'était maintenant, je les prendrais pas du tout. Et je leur ferais même pas de proposition commerciale. Concrètement. Parce que, en fait, soit ils n'étaient pas du tout dans la même mentalité que nous, soit on savait d'avance que c'était un sujet pricing et qu'on se place pas en fait sur le pricing au cabinet, donc on savait qu'à un moment donné on allait avoir un problème avec ces clients là
Ça c'est toujours les marges, mais voilà. T'en parles beaucoup dans tes podcasts en plus, mais savoir dire non, c'est hyper une fois que t'as un an d'existence, que t'as ton chiffre d'affaires, c'est facile de dire non. Au départ, même si tu nous l'as beaucoup dit, dites non. Oui, on dit oui, t'inquiète pas, on va dire non.
Et le mec qui se ramène, tu dis oui, quoi.
Et au final, le premier client qui arrive, tu dis ok, vas-y, viens, j'ai besoin de chiffres, quoi. Et c'est vrai qu'au final, on n'aurait pas dû le faire. Mais d'un côté, en fait, quand t'es dans le moment, en fait, t'as besoin de rentrer du chiffre.
Ouais, mais c'est intéressant, le feedback.
Ouais, pour le coup.
Même si tu le sais, que c'est pas forcément sain parce que tu rentres un client qui est pas dans ta cible, etc.
Des fois, je me souviens dire à François, bon, lui, il est pas dans la cible, mais c'est quand même 200 balles par mois. Tu vois, si on en est un peu là, tu vois. Et c'est que tu le sais, c'est que tu lui as fait une propale, tu sais qu'en fait, pour X ou Y raison, en plus, on l'a beaucoup bossé avec toi, au moment où on a créé le câble, sur les personas, ils rentrent pas, sur la personnalité elle-même, elle rentre pas sur, enfin, il rentre nulle part, le mec. Il est hors cible complet, mais même comme ça, tu lui as fait une proposition. Et il l'a accepté, puisqu'en vérité, t'as fait une proposition, tu savais très bien que ça allait lui convenir quand t'avais fait la proposition, quoi. Et du coup, c'est plus sur ce genre de situation. On en rigole aujourd'hui, mais effectivement, c'est très dur. C'est très, très dur au départ de dire, sauf si dès le départ, t'as vraiment des contacts, tu sais que, entre guillemets, ça va rentrer vite et bien. Mais quand tu démarres vraiment comme nous, concrètement, les premiers contacts que j'avais, c'était 2-3 potes et François, il avait un dossier. Concrètement, on n'avait personne, quoi. Enfin, donc du coup, forcément, t'as pas la même approche, on va dire.
Après, aujourd'hui, je pense, pour le coup, vraiment, on est totalement switché.
Si t'es pas dans la cible, tu rentres pas.
C'est non. Et c'est même s'il y a des clients qui viennent nous voir, alors qu'avant, quand même, on allait un minimum les chercher et tout. Et là, si un client vient nous voir vraiment et tout, il dit je veux bosser avec vous et tout. Ouais, mais t'es prêt à ça, ça et ça. Et si le client, on voit que clairement, il n'est pas dedans.
On a un exemple, encore ouais. On en parlait ce matin. On a un client, on lui a fait la créa. Au final,
prévisionnel tout.
Et au final, il dit à François, il te dit quoi? Il
te
dit
ce matin, c'était ce matin. Du coup, je lui dis, au fait, t'as pu me faire le virement et tout. Déjà, avant, j'avais des doutes de le garder ou pas. Et il me dit, attends, je t'ai pas fait le virement, je sais pas faire. Ma femme rentre ce soir, elle te le fera. Du coup, dans ta tête,
là, c'est fini.
Oh, le voir.
Sachant que tu sais, on est full remote, donc tu dois mettre des pièces sur Penny Lane, etc. chez nous. Enfin, c'est mort. Si le mec, il sait pas faire un virement tout seul, comment tu vas en arriver là?
Ouais, tu sais qu'il
est. Pourtant, on lui a fait la créa et tout. Mais
sa
lui,
boîte est stylée et tout, hein.
Sa boîte est franchement, l'activité elle est top. L'activité moi m'intéresse vraiment en plus, hein. Donc c'est soit tu te dis bon, t'essaies de voir s'il va faire l'effort, mais il le fera pas. Enfin, pour le coup, son activité va fonctionner, c'est sûr. Donc au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va le renvoyer à un confrère.
Et après, je pense
que... un confrère chez qui ça ira très bien.
Exactement. Oui, bien sûr. Ouais.
Non, mais... avec les process, etc. Et, okay. Ouais. C'est quoi aujourd'hui vos principaux canaux d'acquisition?
C'est toujours notre réseau, je pense.
Ouais,
notre
le réseau et nos clients. Le bouche à oreille qui commence vraiment là maintenant, le bouche à oreille commence vraiment.
Et
le marketing où on a remis le paquet, on va dire vraiment dessus, puisqu'on a recruté en interne. Toi, tu bosses avec nous aussi. Ce qui fait que on a mis le paquet là-dedans et franchement là, ça commence à
se voir.
On est en train de se demander. Si on doit pas recruter quelqu'un pour faire les premières approches de lead, parce qu'en fait, j'ai mes plannings, j'ai une dizaine de rendez-vous par semaine de prospects liés en grande partie aux actions marketing. Donc, du coup, tu te dis ça et on en parlait encore tout à l'heure quand moi j'étais dans l'avion et que François était dans le train. On se disait à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, mon planning, si tu veux, passer, parce que mine de rien, sur 10 prospects que tu reçois qui viennent du market, tu as peut-être en signé un.
Bien sûr.
Et du coup, ce que je disais, même si tu réussis à réduire le premier contact à 15 minutes, ce qui est très dur de réduire ça à 15 minutes, juste sur la première approche, au final, tu fais 15 fois 10, je perds déjà beaucoup de temps sur ma semaine, quoi.
Oui, mais surtout, il faut que tu trouves les créneaux déjà pour caler les rendez-vous dans un planning qui, à mon avis, est déjà bien rempli. Quoi. Entre le management, les dossiers, les clients.
Et là, ce qui se passe, c'est que. Ils ont accès, tu sais, à notre calendly là, ils peuvent prendre rendez-vous directement sur le site internet. À chaque fois que je vois un rendez-vous tomber sur les plages que j'ai définies moi-même, j'envoie un message à François en me disant mais c'est la merde, j'ai pas le temps en fait de le prendre ce mec-là là pendant ce créneau-là parce que concrètement, j'avais pas bloqué le planning dans ma tête, j'avais déjà prévu autre chose sur l'heure que j'avais entre deux rendez-vous ou ce genre de choses quoi.
Ouais, c'est le petit inconvénient quoi.
Ouais, c'est le petit inconvénient, mais en vérité. C'est un bon inconvénient. Je préfère ça que d'avoir aucune rentrée, tu vois. C'est toujours pareil. C'est les bons problèmes, quoi.
Ouais, mais ça veut dire que tu penses déjà à organiser une fonction commerciale ou un début de fonction, en tout cas commerciale, pour un pré-filtre.
Sur ça, François, il est un peu plus chaud que moi pour le recrutement de celui-ci. Moi, ça me fait toujours peur de prendre un improductif pour, on va dire.
Ça y est, on y vient.
Voilà, ça me fait toujours peur de prendre un improductif, quelqu'un qui, entre guillemets, va servir à appeler les clients, savoir, job que je peux faire en vérité, tu vois, première approche et qui en plus n'a pas forcément les compétences comptables derrière.
Ouais, je pense qu'il y a ça et en plus il y a le fait que tu kiffes faire ça.
Ouais, bien sûr que j'aime bien. Bien sûr que c'est une partie que j'aime bien. Après, perdre 15 minutes avec un mec ou entre guillemets, ça m'intéresse pas du tout de parler avec lui parce que dès le premier approche, dès que t'allumes la caméra, tu sais direct que entre guillemets ça va pas marcher. Là, j'avoue que tu perds ton quart d'heure, tu dis bon, c'est un quart d'heure quoi, mais au final, tu compenses le soir à rattraper les fameux quarts d'heure de la journée où entre guillemets, t'as peut-être perdu ton temps, même si c'est pas vraiment perdre son temps, tu les compenses le soir, quoi. Donc, effectivement, il faut trouver un juste milieu, je pense.
Mais après, tu vois, sur ça, en fait, parce que si t'as 10, 15, 20 rendez-vous prospects par semaine, cette personne, c'est pas vraiment du temps perdu, dans
bien
le
sûr.
Sens où après tu vas la faire évoluer. Et tu vois, on en parlait dans l'épisode avec Mathieu Chauveau de Ça compte pour moi, qui lui aujourd'hui ils ont créé un pôle de customer success management, donc gestionnaire de la relation client, et dans ce poste, tu vois, de qualification, ce qui te permettrait en plus de pouvoir accélérer la croissance puisque tu vas le scripter, ce call, bah en fait ça pourrait être aussi la même personne qui viendrait faire l'onboarding.
En fait on en a parlé ce matin parce que du coup ce matin j'ai écouté ce podcast et du coup j'ai dit tiens Cédric, je t'ai dit vendredi on doit faire ça et regarde Et regarde là, il fait ça et regarde ce mec qui en plus il fait l'onboarding, etc. Et
là, je lui ai répondu, mais ça compte pour moi, ils ont 30 fois plus d'entrées que toi, donc ils peuvent en fait avoir un pôle comme ça.
Pour l'instant, oui. D'ici à ce que cet épisode soit diffusé, tu seras sur le même trend avec tout ce qu'on fait en marketing.
Non, mais c'est le but, je suis d'accord. Non, mais pour le coup, c'est le but. Mais tu sais, même si j'essaie d'avoir la mentalité, on va dire, qui change, pour en avoir d'ailleurs beaucoup discuté avec toi au départ sur la partie marketing sur laquelle je ne croyais pas du tout.
J'étais très sceptique.
Très sceptique. Mais du coup, je me lance parce que j'aime bien tester les trucs. Là, on est un peu sur le même sujet. C'est qu'on commence à en parler depuis 2 semaines. Donc aujourd'hui, je te dis, ouais, ça me fait chier de payer un mec, entre guillemets.
De toute façon, je le connais. En fait, faut que je taffe pendant 3 semaines, un mois. et après, je lui dis plus rien. Et un jour, il revient 2 mois plus tard. Il dit, oh putain, en fait, tu sais ce qu'on devrait faire? Recruter un CM, un Customer Success Manager.
C'est exactement ça.
Et je lui
ça.
Dis, bah oui, connard, ça fait 2 mois que je t'en parle.
Mais au moins, tu lui fais de l'inception. Quoi. Ok.
Non, mais c'est exactement ça.
Bon, bah, bien joué pour l'inception, du coup, ce matin. Et du coup, quand on diffuse le podcast, je voudrais le feedback en commentaire. Ouais,
on lui fera commenter la page. Salut, je suis là.
Ah là là, ok. Bon, bah, ça, c'est cool sur l'aspect commerce. On revient sur l'aspect management. Full remote depuis le début. Quels sont les pièges à éviter, selon vous, avant d'en arriver aux difficultés, tu vois, qui sont maintenant de 15 personnes, quels sont les pièges à éviter, selon vous, lorsqu'on veut mettre en place le management full remote?
Moi, je pense que ça, tout est une question de culture d'entreprise. Si la boîte, si le cabinet, on met du full remote parce que les collaborateurs le demandent, mais l'associé expert comptable qui est CEO de la boîte, il n'est pas aligné avec ça.
Ça sert à rien,
ça marchera pas. Il faut trouver un truc où la valeur du CAB, elle rentre dedans. Et en fait, moi, c'est ce que je dis, comme pour les clients, comme pour les collaborateurs, on est très pistache. Je sais pas si tu connais le lien pistache-vanille. En fait, c'est soit t'es vanille, soit t'es pistache. Okay. Donc, soit t'es vanille, tout le monde, c'est bon la vanille, mais c'est pas dingue.
Ouais.
Et la pistache, c'est oh putain, soit j'adore, soit je déteste totalement.
Ouais.
Et je pense que là-dessus, on est très pistache. Et donc, soit les collaborateurs, ils viennent, ils se disent c'est génial, un cabinet full remote, j'y vais pour faire ça et ça va être hyper cool. Soit ils vont pas du tout vouloir venir, et tant mieux, au moins c'est entre guillemets clivant et on sait. Et donc, je pense que si quelqu'un veut se lancer là-dedans en se disant je le fais, mais sans vouloir le faire, ça marchera pas. Donc, faut soit vouloir se dire, je le fais à fond, je suis vraiment convaincu de le faire à fond, soit sinon ça marchera pas.
Est-ce que vous pensez que c'est possible, un cabinet qui existe déjà? Parce que vous l'avez fait en création. Donc, on pourrait nous dire, oui, mais en création, c'est super simple, ils sont chacun chez eux, etc. Mais, un cabinet 10, 15, 20, 50, 100 personnes. Alors, 100 personnes, ça va être un peu plus compliqué, mais allez, on va dire potentiellement jusqu'à 50. Quelqu'un qui dit, je veux partir en full remote, je veux rester dans le cabinet, je suis bien, je veux partir en full remote, ce qui veut dire la mise en place potentielle du full remote dans le cabinet. Est-ce que c'est possible ou, selon vous?
En fait, je pense, le problème, même 20 personnes, un cap de 20 personnes, sur du full remote, t'auras toujours, parmi tes historiques, collab, des gens qui sont pas du tout remote. Comment tu peux imposer, on va dire, à tout le monde de faire du... Tu perds ces collabs-là.
Non, je parlais pas de l'imposer, mais parce que c'est dans la culture.
Ah, okay.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de dire, parce que maintenant, t'as de plus en plus de personnes qui travaillent déjà chez toi et qui d'un coup se disent, si là, en l'occurrence, on est à Paris, le rythme parisien, ça y est, j'en ai marre, je commence à avoir des enfants ou pas, j'ai envie de partir dans le sud ou n'importe où en fonction du fuseau horaire qui est mis en place. Donc, est-ce que selon vous, c'est vraiment un truc qui m'intéresse de me dire, est-ce qu'on peut mettre une culture... intégrer une culture de boîte full remote pour certaines personnes, est-ce que ça peut marcher selon vous? Et si oui, comment?
François, c'était une idée.
Ouais, moi, je pense que ça peut marcher, mais il faut vraiment être prêt à se dire qu'on va avoir un suivi qui va être totalement différent. Donc, il va falloir se dire dans sa tête que je vais devoir manager d'une certaine façon les gens qui sont restés en physique et avoir une autre manière de manager et de suivre surtout la personne qui sera en full remote parce qu'elle va nécessiter plus de management. Donc ça va quand même nécessiter de la part de l'expert comptable beaucoup plus de temps de management qu'elle avait avant et de suivi. Donc qu'elle soit prête à faire ça.
Même en dehors de l'expert comptable. Si tu prends par exemple...
Oui, tout le monde. Ouais.
Ouais, dans ton exemple, t'as un de tes collabs entre guillemets qui te fait ton full remote, tu dis ok, très bien, mais son manager il veut pas faire de remote. Enfin, tu vois, à un moment donné, tu vas avoir un conflit. C'est qu'il y a un mec qui s'attend à être en face de l'autre et l'autre qui s'attend à être en visio.
Ouais.
Si c'est pas correctement mené et bien pris, et en fait que ça soit, moi je pense que tu peux pas dire toi tu fais du full remote, toi tu fais rien du tout. C'est tu mets une culture d'entreprise, mais pour tout le monde. Et justement, culture d'entreprise quelque part, c'est tu dis à partir de, si tu veux faire ce changement là, tu dis par contre c'est pour tout le monde. Je sais pas moi. Admettons un cabinet parisien qui veut, ça c'est d'ailleurs beaucoup fait, qui veut réduire ses locaux et qui dit bah maintenant vous restez 3 jours à la maison et vous venez 2 jours au bureau.
Ouais, mais ça pour moi c'est différent. Là, tu es sur du télétravail qui arrange plus ou moins tout le monde, mais tu es en région parisienne, tu
vois, où
tu es à une heure de train. Ouais. Là, moi, je te parle de j'en ai marre, je suis à Paris, je veux partir
c'est
à Toulouse.
Un collab, c'est sûr que ça demande beaucoup de, ça va demander beaucoup de changements pour la boîte. Donc, faut en être conscient et je pense qu'il faut voir le collaborateur qui demande à faire ça.
Ouais.
Savoir, l'expert comptable le sait, le CEO de la boîte, il va le savoir. À savoir si ce collaborateur il est bon en télétravail ou si en fait une fois qu'il est chez lui qu'il a pas de pression qu'il a personne autour de lui en fait il se laisse aller et ça, au bout de 3 semaines le mec bossera plus.
Effectivement, le mauvais télétravail, tu vois. Et le mauvais télétravail, c'est quelque chose qui est compliqué à cerner. Quand je dis mauvais télétravail, c'est que la personne doit être en télétravail pour les mauvaises raisons. Tu vois, ça y en a toujours.
Ouais.
Tu vois, justement d'être plus tranquille, de se dire bah je bosse quand je veux et surtout comme je veux et au final je bosse pas vraiment parce que personne me regarde. Si tu recrutes un collaborateur qui en fait veut faire du télétravail uniquement pour ces raisons-là en interne, c'est dur de le repérer. Bon, en plus de ça, enfin je pense que enfin c'est compliqué à gérer.
Ouais.
Nous sur les recrutements, on a toujours peur de ça hein. Quand tu recrutes un mec, tu te demandes toujours le mec, quand il te dit je suis à fond pour le télétravail, tu te dis ouais, mais pourquoi t'es à fond pour le télétravail? Est-ce que t'es vraiment, est-ce que tu vois le côté bénéfique?
Est-ce que t'es à fond parce que tu vas te dire que tu vas pouvoir rien foutre de tes journées?
Voilà.
Ou est-ce que t'es à fond parce que
exactement,
tu dis que ça te donne notre organisation de travail, tu vas pouvoir bosser différemment, toujours aussi efficacement, mais juste être un peu plus tranquille sur certains moments.
Et flexible, on va dire, dans ta vie perso. Tu vois, et ça, franchement, tu le sais jamais. Quand tu recrutes un mec.
Tu le recrutes en visio en plus.
Voilà. Donc, bah ouais, tu le recrutes. On essaye de les voir quand même sur les recrutements.
Ouais.
Parce que.
C'est quoi
le process de recrutement petit, aujourd'hui chez
Petit
chez
hack, tu vois, tu me demandais un piège ou un truc qu'on avait mal fait. J'ai un collaborateur, moi, que j'ai recruté en visio sans l'avoir vu. Et c'était une erreur. Si je l'avais vu physiquement, j'aurais vu certains trucs que j'avais pas vu en visio.
Pas qu'il était moche, on est bien d'accord.
pourquoi
Non, mais c'était plutôt une manière d'être, un comportement. En plus, moi, c'était un collaborateur qui devait partir en direction financière externalisée. Et donc, par visio, ça transpirait pas. Alors qu'en physique, en fait, je me suis dit, non, mais je suis pas à l'aise pour envoyer ce mec.
Ça passe pas.
Okay.
C'est quoi, du coup, le process de recrutement chez vous aujourd'hui?
Le numéro un, c'est qu'on fait le tour des collaborateurs, savoir s'ils n'ont pas quelqu'un qui cherche du travail.
Ok.
Ça, c'est le premier truc.
Donc, l'équipe aujourd'hui est déjà le premier promoteur.
Ouais.
Et on recrute beaucoup, beaucoup.
Ah ouais, beaucoup. Enfin, franchement, sur les recrutements qu'on a fait, c'était quasiment que de la reco, à part 3-4 personnes qui sont justement nos difficultés, on va dire, aujourd'hui, puisque tu sors de personnes que personne connaît au sein du cabinet.
Ok.
Après, des fois, ça marche pas. On a eu des recrutements qui ont été recommandés par une collaboratrice ou un collaborateur, et au final, la période d'essai n'est pas passée. Hein. Okay. C'est arrivé. Hein, Donc, ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est que bon, t'as le classique cabinet de recrutement, recherche, enfin un peu comme on le fait tous. Et ensuite, on les rencontre tous physiquement.
Ok.
Tous.
Et le process, du coup, c'est pour ma partie DAF, c'est un entretien visio avec moi. Puis éventuellement physique et un entretien, un test technique au milieu.
Ok.
Aujourd'hui, je ne fais pas encore test technique.
Aujourd'hui. Donc on verra.
C'est quelque chose que je réfléchis.
C'est sûr que ça dépend. Enfin, quand tu reçois des CV par quelqu'un qu'on connaît dans le cas, il dit j'ai déjà bossé avec lui, c'est bon.
Et même en fait, je détestais les tests techniques quand j'étais moi-même collaborateur. Quand je cherchais un cabinet, je détestais ça parce que quand je regardais les questions, quand on me les posait, je me disais, mais en fait, tu m'évalues sur le fait de savoir le taux d'IS à une date donnée. Enfin, c'est compliqué à évaluer, tu vois. Qu'est-ce que t'évalues? T'évalues une compétence technique. En réalité, t'as Internet, tu te souviens plus du taux. Si t'es un peu malin, tu le retrouves, quoi.
Ouais.
Enfin, et je trouve ça, du moins sur notre partie expertise comptable pure, je pense que tu recrutes plus un mindset et une façon de penser, une façon d'évoluer, plutôt que de savoir si la provision, tu dois la passer à tel ou tel moment, tu vois. Et c'est pour ça que j'en ai pas mis en place. Mais des fois, j'y réfléchis, on en discute et je me dis, oh, peut-être que je devrais mettre un petit test au moins Excel. Parce que des fois, tu te rends compte que certaines personnes en Excel, ça maîtrise pas une bille et au final, on a besoin d'un minimum. Je te dis pas qu'il faut que tout le monde sache faire des macros, c'est pas vrai. Mais un minimum, quoi.
C'est, faut les bases.
Voilà, les bases de Excel. À la limite, sur ça, je veux bien. Sur le reste, c'est pas trop mon idée, en fait. Je suis plus sur l'idée, tu veux bosser, tu veux évoluer. OK, bah, on teste et on voit ce que ça donne, quoi.
OK. Je reviens sur le management à distance. C'est quoi les conseils que vous pouvez donner? C'est quoi l'orga chez vous du télétravail? Enfin, du full remote. J'insiste parce que c'est pas vraiment la même chose. Tu peux avoir quelqu'un qui est en télétravail 3 jours par semaine et du coup, potentiellement t'inspirer de ce que vous mettez en place dans le full remote. Mais vous, vous avez vraiment la démarche qui est un peu poussée. C'est quoi aujourd'hui le management en full remote, l'orga chez vous?
Alors, il y a deux, trois trucs qui sont hyper, je pense, qui nous soudent pas mal. C'est un groupe WhatsApp où, pour le coup, on parle vraiment beaucoup. Pas beaucoup de boulot, d'ailleurs.
Très peu boulot.
Très peu boulot.
Jamais.
Et au final, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, le groupe est le plus actif, c'est le week-end.
Ouais.
D'accord.
On s'envoie des trucs, ce qu'on fait le week-end et tout, et c'est marrant parce que c'est souvent là où le groupe est le plus actif.
Ouais, c'est même quasiment que là. Ouais. Enfin, si tu regardes, c'est la semaine, de temps en temps, t'as une petite blague qui passe ou ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est le week-end, quoi, où ça parle vraiment. On n'oblige personne, hein, attention.
Ah ouais, non.
C'est, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça marche plutôt bien.
Ouais. On a ce qu'on appelle le café du lundi. Tous les lundis, midi 15, on se fait une visio tous ensemble, hein, justement pour se raconter ce qu'on a fait le week-end, pour lancer la semaine, etc., pour donner un peu les nouveautés de rallye. Ça, c'est vraiment les trucs assez quotidiens.
Là, du coup, à 15, c'est chacun prend la parole, tu fais un petit tour de table, visio.
Non.
Qui veut, c'est open bar. Qui veut se raconte, ouais, ok, ouais. J'ai fait ça ce week-end.
Après, effectivement, c'est un des sujets avec Maggie, là, du marketing, c'est comment animer un peu plus ces cafés du lundi. Là aujourd'hui, effectivement, enfin, moi je parle beaucoup, donc du coup, je parle, je leur demande ce que j'interroge un peu. Ah, t'as fait quoi ce week-end? Non, et ça embraye comme ça, quoi. Mais il y a pas de, c'est à ton tour de parler. Non, ça, t'as pas envie de parler, tu parles pas. C'est pas grave, quoi.
Donc il y a ça, c'est tout ce qu'on fait un peu de quotidien et hebdo. Après, moi, dans le sud, vu qu'on est 3-4 dans le sud, on fait ce qu'on appelle la journée des sudistes. Donc, c'est une fois par mois, on va bosser ensemble dans un cowork.
Ok.
Et après, on a trois séminaires par an.
Là, dans le sud, vous êtes...
Quatre.
Tous, donc quatre, mais région Aix.
Ouais, Aix, Salon et Avignon.
Ok, donc région, ouais. Même région quand même.
Ouais, et au Portugal, quand j'y suis, j'ai une grosse partie des collabs qui est à Leiria.
Ok.
Donc ouais, j'ai la grosse majorité. Et généralement, quand j'y vais, on fait au minimum un repas le midi ensemble. On bosse ensemble l'après-midi ou le matin. En fonction, on essaie de faire ça. Il n'y a pas de régularité. Du coup, sur cette partie-là, c'est pas tous les mois, on le fait une fois.
Ouais, c'est en fonction de l'opportunité.
Voilà,
quoi.
C'est à l'occasion. Donc, ouais, on fait ça. Ce qui permet de souder vraiment. Et côté expertise comptable, honnêtement, à part quand je suis chez un client ou comme aujourd'hui ou je suis dans un cas particulier, je pense que je parle à tout le monde et je fais une visio avec tout le monde tous les jours. Quoi.
Ok. Enfin, mais visio suivi de dossier, on fait un point, et puis à ce moment-là, t'arrives à discuter.
Exactement. Et on se pose pas pendant une heure à parler de tout et de rien. C'est ça, effectivement que non, mais il n'y a pas, enfin, c'est très rare. Et des fois, je me dis, ah, c'est vrai, j'ai pas parlé avec lui depuis 2 jours. Et au final, du coup, tu te dis, bah, tu sais, on va faire une réunion sur un dossier qu'on a en commun pour justement avoir l'occasion d'échanger. Et pour avoir demandé, je sais que entre eux, c'est pareil. Ils se parlent quasiment toute la journée sur des dossiers. Je sais qu'il y en a aussi, et c'est normal, et heureusement qu'ils parlent de la vie de tous les jours. Donc du coup, ça communique pas mal. Mais je pense aussi que tu as beau mettre ce que tu veux en place, si les gens que tu as recrutés sont pas dans ce mindset de full remote, ça marchera pas.
Oui, il faut vraiment accepter. C'est pas, tiens, je suis pas en télétravail. Non, je suis en full remote. Voilà. Et à côté de ça, il y a ces petits rituels dont tu parlais.
Et après les séminaires,
j'allais te demander justement comment t'intègres, parce que quand t'es à distance, j'imagine qu'il y a une vraie puissance de la culture d'entreprise. Comment vous faites vivre cette culture d'entreprise?
Déjà, on a maxi goodies, tu vois, les t-shirts, les polos, les pulls, les casquettes, les stylos, enfin.
Vous avez fait du merch, en fait. Voilà. Hein, c'est juste que vous avez créé une marque et vous voulez faire du merch là dans l'histoire.
Et donc du coup, déjà t'as ça qui arrive au moment où tu arrives, qui qui fait sourire, surtout dans les cabinets d'expertise comptable, parce que c'est pas commun, on va dire. Souvent, et sans le faire exprès, les collabs commencent au moment d'un séminaire.
Ah, ça va vite en même temps. Hein.
Ouais.
Il y en a quand même trois par an. Donc ça va très vite.
Et ensuite, effectivement, tu vois, avant qu'on fasse le premier séminaire, on l'avait fait en avril 2022. Donc, un an après quasiment la création du cabinet, ça veut dire qu'il y a des gens qui bossaient ensemble sans se connaître réellement, à part en visio. Et quand on est revenu du séminaire, j'ai fait un tour de table pour savoir comment s'était passé le séminaire. Et j'ai quand même eu, on était 6 à l'époque, j'ai quand même eu la moitié des collabs qui m'ont dit, ah bah, tu sais quoi, ça fait du bien de rencontrer les gens parce que au final, on n'a plus du tout le même avis sur les gens que quand on était en visio.
Et il y a eu un vrai avant-après.
Il y a un vrai avant-après du premier séminaire. Vraiment, c'est en termes de relation, il y a eu un vrai avant-après.
Parce que est-ce que les échanges, donc Teams, ça reste Teams et Visio, ça reste un peu froid et du coup, ça a permis de briser la glace.
Ouais, et je pense que tu sais, quand tu connais pas la personne, des fois, il va te dire les choses d'une certaine manière, tu vas peut-être mal le prendre, alors qu'en final, la personne, elle est pas du tout dans un esprit critique, c'est sa façon d'être. Et quand tu vois la personne que tu la côtoies, durant des activités, durant du team building pur et dur, en fait, tu comprends que c'est sa personnalité. Chose que tu n'avais pas compris avant, en fait.
Oui,
et
que tu ne peux pas percevoir sur un Teams ou un café en visio. Du coup, ça m'amène à la question, mais c'est quoi un séminaire Rallye Conseil? Parce qu'il y en a trois par an, donc ça colle avec la culture de la boîte full remote, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à se voir en présentiel, mais ça ressemble à quoi? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que...
Alors, ça a été crescendo. Le premier séminaire, on a bossé tous les matins.
D'accord.
Le deuxième séminaire, on a bossé un jour. Le troisième séminaire, on a bossé un matin. Et là, le quatrième qu'on a fait, là, il y a deux, trois semaines, on n'a pas bossé du tout.
Le quatrième, c'était relaxation de période fiscale, tu vois. Il est arrivé juste après la période fiscale. C'est que je pense que même si on nous avait proposé de faire du parti travail, je pense qu'on aurait dit non, quoi. Enfin, avec François, on aurait dit non, quoi. Si lors de l'organisation, ça avait été proposé. Et il a fait beaucoup de bien, celui-ci. Pour le coup, il a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce qu'on a quand même eu pas mal de travail sur cette période-là. Et comme c'était juste après, vraiment juste, ou même pendant, encore pire, c'était pendant. Ouais. Parce que du coup, c'était avant le 18. Il a fait beaucoup de bien, celui-ci. Mais effectivement, on n'a pas bossé.
Et donc, l'idée, c'est de faire vraiment beaucoup d'activités avec les équipes. On va faire du surf, on va faire du karting, on va faire des excursions, on va faire du bateau. Alors, on va faire plein d'excursions, plein de découvertes aussi. Honnêtement, des trucs qu'on ferait jamais, je pense, solo. Tu vois, quand on était au Portugal, on allait manger dans un restaurant de fado. Même si tu vas à Lisbonne, tu vas pas forcément aller en couple avec dans un resto de fado.
Ouais, pareil pour le surf. Hein.
Ouais, enfin, le surf, pour le coup, c'est pareil. Tu fais
il y a des photos qui sont. Oui, j'imagine qu'il y a des photos du surf.
Ouais. Je crois qu'il y a même des vidéos.
Waouh.
Il y a une vidéo sur LinkedIn avec Alexandre et Bastien qui se font un câlin.
Je l'ai pas vu passer, mais je vais aller checker immédiatement.
Ils se sont rentrés dedans, mais au final, ils ont réussi à se tenir et pas tomber.
C'est ça l'esprit.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais enfin pour le coup tu fais des choses que tu ferais pas forcément en temps normal et encore moins avec tes collègues.
Ouais, donc ça vous permet de créer du lien. Là par exemple, vous faites une enquête de satisfaction, j'imagine, après enfin du moins tu fais un feedback, pas une enquête de satisfaction, ouais. Parce que ça a été 15 et c'est pas non plus t'as pas un voilà. mais tu chopes un feedback. Est-ce que tu as vu tu vois monter la satisfaction au fur et à mesure
Les gens sont tout le temps très contents de manière
Ouais.
Après, te dire qu'ils étaient moins contents au premier ou au deuxième, j'en sais rien.
Ouais.
Mais de manière globale, on va dire, tout le monde est très content des séminaires. De toute façon, à partir d'un moment, si t'es pas content là, t'es content nulle part. Hein.
Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, l'approche que tu viens de décrire du séminaire, c'est pas un séminaire où je t'envoie un paperboard c'est un séminaire, tu crées du lien.
Ouais.
Externe avec du moment.
En fait, je pense que la communication sur qu'est-ce qu'on veut faire de rallye, ou quelles sont les valeurs, etc. Même si on le fait que par visio, en fait, on leur balance tout le temps.
Ouais.
Donc, quand on est en séminaire, c'est pas pour rebalancer les valeurs de rallye et leur donner les objectifs. Ça arrive, hein, quand on avait fait celui à Aix, on avait donné les objectifs de l'année et tout. Ça n'empêche pas qu'une phrase au début du séminaire ou à la fin du séminaire, on dise merci à tous. Bon, voilà, on a fait ci et ça cette année. L'année prochaine, on va aller là. Mais voilà, c'est 10 minutes et l'idée, c'est vraiment juste de profiter ensemble et après, ça se crée naturellement.
Vous disiez tout à l'heure, justement, qu'il y avait maintenant les difficultés qui arrivent. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui?
En termes d'orga, C'est toujours pareil, c'est la montée en compétence des collaborateurs, c'est souvent un peu plus compliqué, surtout quand tu les as au départ. C'est-à-dire que nous, avec le cabinet qu'on a au Portugal, on a certaines personnes qui ont un BTS compta qui a été fait en France, qui ont décidé d'aller vivre au Portugal.
Okay.
Donc, du coup, qui ont des études, qui ont pratiqué dans des cabinets français. Et quand ils sont arrivés au Portugal, ils n'ont pas directement été chez Rally Conseil. Avant ça, ils ont une vie au Portugal, par exemple. Et du coup, les faire reprendre le train de l'expertise comptable, tu vois, tu as tout ce volet formation où je pense qu'on n'est pas top sur cette partie-là. On n'est pas encore assez bon.
Ok. Formation.
Ouais. Ensuite, tu as la partie, s'assurer qu'en termes de prod, tu ne perds pas quelqu'un. Pas parce qu'il n'a pas envie de travailler, mais parce que si tu étais à côté de lui, tu aurais peut-être pris le temps de lui montrer comment aller plus vite de telle ou telle manière. C'est un peu plus compliqué, cette partie-là. Mmh. Ça, c'est une vraie difficulté pour le coup. Mmh. Ça, c'est un vrai, vrai, vrai sujet en interne.
Tout est lié à la formation.
Tout est lié à la formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne prend pas d'apprenti. Parce que on va le tester là, en septembre.
Okay.
Mais
sur la compta ou sur Dafextern?
Sur la compta.
Okay. Mais du coup, on se dit comment tu veux aujourd'hui réussir à former correctement. On n'a pas les process qui nous permettent de former correctement quelqu'un qui part de rien. Et en fait, on les met en place, ces process, mais comme tu disais tout à l'heure, on a 2 ans. Donc en réalité, il n'y a pas tout qui est en place. Enfin, tu as une croissance qui a été énorme. Donc du coup, à un moment donné où on pensait qu'on allait avoir le temps de faire les process, on les a pas fait. On était plus sur commercial qu'autre chose. Et donc forcément, là, ça commence à se payer. Moi, c'est la principale difficulté que je vois, c'est autour de la formation.
Pour toi aussi, François?
Ouais, j'ai rien à rajouter. Effectivement, c'est la formation qui est le plus compliqué. Comment tu fais évoluer les gens, comment tu arrives à voir les difficultés qu'ils ont. Parce que, en fait, quand t'es dans un bureau, tu vois les difficultés qu'il a. La personne, ça fait 4 heures qu'elle est sur le même dossier, tu vas l'entendre râler, etc. Mmh. Tu vas passer derrière elle, tu vas dire, mais ça fait déjà 3 fois que je passe derrière elle et que je vois qu'elle est sur ce dossier, etc. Pourquoi elle galère autant, etc. Donc, tu arrives à percevoir les difficultés. Les difficultés, tu les perçois beaucoup, beaucoup moins. Il faut que la discussion soit beaucoup plus fluide pour qu'elle arrive à dire d'elle-même.
Et même, tu sais, quand t'es en cabinet, moi je me souviens, t'es assis ici, ton pote il est assis au bout de la table, t'as une galère, t'es pas en train de chercher.
Ouais.
Tu sais qu'il est meilleur que toi là, tu dis écoute, tu peux venir 2 secondes et il te fait ça en 2 secondes. Nous, ça n'existe pas. Parce que même si tu dis à quelqu'un, viens, on se fait un Teams pour, tu me montres, c'est pas pareil.
Ouais,
c'est pas pareil.
Comment vous faites pour sentir cette fois plus le côté perso en étant en visio? Est-ce que la personne est dans un bon état, pas bon état, un peu de surcharge de travail? Comment vous faites pour sentir ça?
Ouais, moi, j'essaie de le demander tout le temps. Après, effectivement, il y en a certains qui vont pas te le dire.
Ouais.
Et je pense que même comme ça, ça se voit. Quand la personne, même en visio, ça se voit, ça se sent. Parce que si tu connais les gens, que justement, le fait que déjà on connaisse une grosse partie des collabs, de nos expériences passées, du fait qu'on ait fait des séminaires, je pense qu'on arrive à le repérer instinctivement. Et pour le coup, après, je pense que ça dépend aussi de nous. Hein. On arrive assez facilement à percevoir ça. À le régler, c'est encore une chose. À essayer de faire en sorte que ça aille mieux, c'est encore une chose. Bien. Mais le percevoir, on arrive, quoi.
Ouais, et puis encore une fois, en fait, on s'est créé comme ça. Donc les gens, on les a tous connus qu'en remote. Donc on sait comment ils sont en remote quand ils sont arrivés. Ils sont heureux après un séminaire, ils sont heureux. On sait comment ils sont à ce moment-là, heureux en remote.
Ouais.
Comment sont tournés les messages écrits, etc. Et on voit après comment sont tournés les messages écrits quand ça va moins bien.
Ouais, tu sais, le fameux, comme avec ta femme ou quoi, t'en réponds « ok ».
Ouais.
Tu vois, le truc, tu vois. Là, tu sais, il y a un problème. T'as pas besoin d'être en face de la personne. Tu sais que, bon, je vais l'appeler vite fait parce que je pense qu'il y a un sujet. Je sais pas lequel, mais il y a un sujet, quoi. Donc, tu le vois, en vérité, mais.
Et t'es même heureux de pas être devant ta femme à ce moment-là.
Voilà. Okay, bon, voilà, c'est, donc au final, effectivement, ça se ressent, la façon d'écrire, ça, au final, puisque tu connais les gens que de cette manière, on va dire, d'un point de vue travail, François, il a raison. Et quand ils écrivent différemment, tu le vois.
Ouais, t'arrives même à percevoir.
Même sur des réponses clients. C'est des fois, je sens que la personne est agacée sur la réponse, alors qu'il n'a rien dit de mal. Hein, sur le mail, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de... C'est très corpo. Mais quand tu connais la personne comme elle écrit d'habitude et que tu vois ce mail-là partir, tu décroches le téléphone, tu dis, mais il y a un problème là ou... Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que tu le vois directement, tu le sens. Mais je pense aussi que c'est parce qu'on s'est constitué comme ça.
Ouais, c'est vraiment ça. Poussé à être attentif justement à ça dès le départ, quoi.
Ouais, je pense.
Le temps file. Je suis très curieux de savoir, Cédric, ton avis justement sur quelle est la différence entre le marché de l'expertise comptable en France et le marché de l'expertise comptable au Portugal.
Sur le conseil, 30 ans.
Sur le conseil, 30 ans.
Ouais, je pense.
C'est-à-dire que c'est quoi?
C'est ce que les confrères, parce que je ne faisais pas du tout partie de la partie à ce moment-là, mais faisaient il y a 30 ans. On est purement dans la production comptable.
Ok.
Et c'est tout.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était avant ou pendant, mais le client, ce n'est pas ton client, c'est l'administration fiscale.
Ah oui, et la formation d'experts comptables au Portugal, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout la même formation qu'en France, hein. Notre formation française, un expert comptable au Portugal, c'est un auditeur.
Okay.
Tu es expert comptable au Portugal après une licence et un concours à l'ordre. C'est quand même un peu plus simple que nous en France. Partant de ce principe, pour en avoir discuté beaucoup avec des gens qui sortent d'école, ils sont formatés à l'école pour avoir peur de l'administration fiscale, mais vraiment comme ça. C'est une ancienne dictature, hein, donc du coup, il ne faut pas l'oublier ça. Ils sont formatés pour répondre aux exigences fiscales et en gros suivre à la lettre les exigences fiscales. Tu vois, c'est tout bête, mais tous dans notre métier, des fois en avril, tu reçois une facture de l'année d'avant, qu'est-ce que tu fais? Tu la passes cette année-là, tu la comptabilises cette année-là, tu sais que tu as un risque. En vérité, c'est toléré par tout le monde, même par l'administration fiscale, sauf si le montant est abusé. Au Portugal, l'expert comptable, il ne te laisse pas faire ça. Tu ne l'as pas passé, ok, on la comptabilise, par contre, la déductibilité de la charge, tu l'oublies. La récupération de la TVA, tu l'oublies. Et en plus de ça, dès qu'il y a une question conseil, on renvoie vers des avocats fiscalistes.
D'accord. Donc c'est pour ça que tu disais ça a 30 ans de, ah ouais, 30 non, ans de retard, c'était que c'est vraiment de la production pure, quoi. C'est des usines de prod de compte.
Et même en termes de logiciel, on est très loin. On est très très loin. Aujourd'hui, moi j'impose le full des maths, ouais, on va dire, au Portugal. Mais les deux collaboratrices que j'ai là-bas sont sans cesse en train de me dire, Cédric, le jour où tu as un contrôle, si tu fournis pas les pièces, les justificatifs papier, tu vas prendre cher. Et moi, je leur explique que sur les contrats, on dit aux clients de garder les documents. Donc, à un moment donné, ils existent, les documents, ils sont pas perdus. Et, mais elle le conçoit pas comme ça.
OK.
C'est au niveau formatage, c'est pas du tout comme ça. Donc, déjà, on est très loin par rapport à ça. Vraiment, ouais, très loin. Ce qui fait que souvent, puisque notre première cible sur ce cabinet-là, vraiment portugais, notre première cible sont les Français qui s'installent là-bas. Parce qu'il y a de plus en plus de Français qui ouvrent des business au Portugal.
Ouais.
Passant du resto à la start-up, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Français qui s'installent. Et quand ils ont déjà ouvert un business en France et qu'ils arrivent au Portugal et qu'ils ouvrent un business au Portugal, déjà, ils ont la barrière de la langue. Premier point, les Portugais se débrouillent bien en anglais. Donc normalement, ils arrivent quand même à communiquer.
Le sujet, c'est les Français après.
Voilà, c'est un autre sujet. Je voulais pas y revenir, mais...
Je me permets, parce qu'avec mon anglais mauvais, je peux me permettre ce genre de blague.
Et de deux, ils ne sentent pas du tout la même relation avec leur expert comptable que quand ils étaient en France. Concrètement, pour eux, l'expert comptable, c'est, comme tu dis, une production de compte et surtout respect des directives fiscales. C'est surtout ça, surtout ce point-là. Enfin, moi, c'est... Enfin, demander une remise gracieuse au Portugal, ça n'existe pas. Tu tapes l'amende, tu la payes, tu te tais. Et tu la payes dans les temps parce que sinon elle fait x3. Tu vois, on en est dans ces théories-là, c'est que tu ne vas pas négocier une amende.
Okay.
Sauf si tu vas au contentieux et t'es même pas sûr de gagner. Tu vois.
Oui, alors qu'en France, tu reçois une amende et puis tu demandes...
Sauf si tu te les fais toutes les 5 minutes, on est d'accord. Mais t'as au moins 3 chances, quoi, tu vois. T'as au moins 3 chances. T'as droit à 3 erreurs où tu demandes la remise gracieuse, ça passe.
Oui, ouais, bien sûr.
Portugal, moi, enfin, quand nous, on a ouvert le cabinet, vraiment la partie back-office qu'on avait ouvert en premier, j'étais voir un confrère au Portugal. C'est comme ça que du coup on a repéré le besoin. Mais quand j'étais voir le confrère, en dehors du fait que comme j'ai un super accent français quand je parle portugais, on m'est pris pour un américain et on faisait des tarifs défiant toute concurrence. Si on écarte ce sujet-là, il n'y avait personne qui me conseillait quoi que ce soit, ne serait-ce sur de la prise de dividendes, on va dire... sur un régime mère-fille, il n'y a personne qui était capable de me répondre sur ce sujet-là. On me renvoyait vers des avocats fiscalistes. Et ensuite, et le pire, on l'a vécu encore hier, la transparence. C'est opaque. Je ne sais pas ce qu'il y a dans mes comptes alors que je suis expert comptable. J'ai du mal à récupérer un grand livre.
Okay.
C'est qu'on m'a fourni ce qu'ils appellent un balance sheet, qui est une balance en vérité, et actif-passif et compte de résultat, débrouille-toi avec ça, t'as rien de plus. François, hier, il me pose la question, mais je peux pas avoir l'équivalent d'un fake, un grand livre pour qu'on voit ce qu'il y a dans les comptes. Je lui dis, bah, je vais tester, mais, enfin, entre guillemets, c'est opaque, quoi. Ils font leur truc, ils envoient aux impôts, tu te tais et on passe à autre chose, quoi.
Est-ce que selon toi, c'est dingue d'entendre ça, est-ce que selon toi, ça va suivre, au moins la digitalisation et la transparence. Tu vois, pour moi, la digitalisation a amené, vous utilisez PennyLane, ça amène une sacrée transparence d'information entre ce que toi tu as et ce que ton client peut avoir. Est-ce que tu le sens que ça peut venir ou
La digitalisation, oui, puisqu'ils sont très digitales sur ce qui arrange l'administration fiscale.
Ouais. Tout ce qui est facture électronique et tout, c'est déjà...
Facture électronique, je pense qu'ils ont pris un autre volet qui est le QR code.
Okay.
C'est, si vous allez au Portugal, vous avez un papyrus entier sur une note de resto, en bas, il y a le QR code. Pour l'instant, c'est pas trop utilisé, mais je pense que c'est un peu comme les délais français, ça va venir dans les deux années qui arrivent, là. Ça va être mis en place vraiment, là, ils font des tests, on va dire. Et ils ont quelque chose qui est pas mal, par contre. Mais c'est pareil, c'est pour du flicage. C'est que les entreprises ont l'équivalent d'un numéro Siret. Sauf que si vous mettez pas ce numéro Siret sur la facture fournisseur, la dépense n'est pas déductible. Si tu l'oublies, si tu mets ton nom, hein, tu mets ton nom, ton adresse, ce que tu veux, mais t'oublies ce numéro Siret, la dépense n'est pas déductible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système de facturation des Portugais est relié aux impôts. Tu peux pas émettre une facture de vente sans que ton système informatique soit relié aux impôts.
Ah, donc c'est un peu la facture électronique, quoi, d'une certaine manière.
Pour les impôts.
Ouais, pour les impôts.
Pour les impôts.
Ouais.
Voilà, c'est uniquement
okay, c'est direct.
Pour les impôts. Ouais, en gros, tu envoies ce qu'ils appellent un SAFT, qui est l'équivalent d'un fichier fake, tu l'envoies mensuellement. Mais en réalité, s'ils veulent taper sur ta base de logiciel de vente, ouais, ils peuvent, puisqu'en vérité, il faut avoir une accréditation des impôts pour être autorisé, pour qu'un logiciel soit autorisé à vendre, on va dire, le software d'établissement de facture de vente. Ce qui fait que souvent, c'est nous, les experts comptables, qui détenons ces logiciels-là et on les loue à nos clients pour qu'ils fassent leur facture de vente. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais concrètement, ils vont y arriver parce qu'ils ont ils ont un portail aujourd'hui où, du coup, comme tu as renseigné ton numéro fiscal, tu rentres dans le portail des finances, hein, j'ai bien dit, hein, c'est pas un prestataire externe. Et tu as toutes les listes des factures sur lequel tu as mis ce numéro fiscal,
okay,
que tu peux récupérer. Sauf qu'ils ne sont pas valables parce qu'aujourd'hui, la facture physique fait foi pour l'instant.
Okay.
Mais en fait, tu peux déjà les récupérer. Si je vais un peu plus loin dans le truc, pour le particulier, en France, ça n'arrivera jamais. Le particulier met aussi son numéro fiscal dans ses factures.
D'accord.
Pour réduire ses impôts, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu avais une annonce il y a quelques mois, le premier ministre portugais, il avait dit les Portugais aiment bien aller au restaurant le vendredi soir. Mais pas parce que, enfin, vendredi soir, début de week-end, tout le monde va au restaurant. Non, parce qu'en fait, il avait des chiffres concrets. Les gens qui mettaient leur numéro NIF sur les factures de restaurant, et ils se rendraient compte qu'il y avait un gros chiffre d'affaires du restaurant qui était fait le vendredi soir du fait que les gens aient mis leur numéro NIF. Tu vois un peu où on en est.
Okay.
Ils font des contrôles fiscaux sur les personnes physiques. Si ton numéro NIF, entre guillemets, s'ils se rendent compte que t'as, je sais pas moi, 1000 euros de paye par mois, et que t'as un train de vie avec ton numéro NIF qui va à 3-4 000 euros de paye par mois.
T'es grillé direct.
Ah ils ouais. ont l'info.
Ah, ils sont super avancés fiscalement, quoi.
Mais ça arrivera jamais en France, ça. C'est une ancienne dictature. En France, tu fais ça, c'est la révolution.
Oui, il y a des chances.
Ah bah oui, non, mais oui, il faut le dire.
Il y a des chances.
Ils l'acceptent au Portugal, ça a toujours été comme ça.
Okay.
En France, ça n'arrivera jamais, ça.
Non.
Du moins pour les particuliers.
Donc là, si je recap, en fait, c'est plutôt toi avec le marché français qui va venir appliquer là-bas les méthodes et le service du conseil, de l'accompagnement aux entreprises françaises qui s'installent là-bas.
Dans un premier
Donc
temps.
Donc en fait, tu gardes le service français pour les Français qui s'installent au Portugal.
Ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, bon, déjà, il faut pas arriver en disant je suis français, je vais faire mieux que tout le monde. Enfin, ça marchera pas si tu le fais comme ça auprès des Portugais et n'importe quel pays. C'est comme si t'avais un étranger, un Américain qui vient ici, qui dit.
Quick ça voilà, essayé, ça va. Voilà.
et du coup, ouais, t'as ce. Donc c'est pour ça qu'on s'axe aujourd'hui sur les Français, puisqu'en fait ils sont demandeurs de ce service-là. Les Portugais ont l'habitude d'aller voir les avocats. Et en fait, les avocats,
d'accord,
c'est le pape là-bas. Enfin, tu vas avoir un avocat pour tout et pour rien.
Ouais.
Et donc du coup, je pense honnêtement sur le marché. Portugais, je sais, ça sera pas aussi simple.
Okay.
Jouable, mais pas aussi simple. C'est pour ça que, en gros, on plante la tente avec les Français. Ça marche plutôt bien. On a vraiment beaucoup de leads qui rentrent sur cette partie-là. Mmh. Et ensuite, quand on aura structuré quelque chose, tu pourras attaquer le marché portugais, tu y vas.
Okay.
Mais là, on est trop jeune, on va dire, pour attaquer le marché portugais.
Il y a des cabinets en ligne là-bas ou
Non.
Ah ouais, intéressant.
Je crois que t'en as un. Mais même comme ça, ils pratiquent pas. Le low cost n'existe pas encore au Portugal.
Okay.
Parce que, bah, tout simplement parce que, enfin, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un concept déjà d'avoir les factures en démat.
Ah ouais, c'est vrai.
Parce qu'elles veulent les classeurs. Donc, mais ça arrivera. C'est pour ça que je te dis que ça a 30 ans de retard.
Okay.
Sur le conseil et même sur les méthodes.
Très bien. Bon, bah, rendez-vous dans 30 ans.
Ouais.
Deux dernières questions, messieurs. Je suis super curieux de savoir quelle est votre vision du marché à chacun d'ici les 5 prochaines années. Alors, on ne sait pas 30 ans du Portugal, mais avec votre vision, ce que vous avez fait déjà depuis le début et ce que vous êtes en train de construire stratégiquement, c'est quoi votre vision du marché de l'expertise comptable DAF externe d'ici 5 ans ?
DAF externe, je pense que soit il sera à peu près identique à celui d'aujourd'hui, parce que le besoin aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles sont sous-effectives, elles ont trop de besoins et pas assez de personnes pour le faire. Et donner la démographie, ça changera pas. Et sur l'expertise comptable, je vais aller exprès un peu à contre-courant de tout le monde, c'est juste pour taquiner un peu, alors qu'en vrai, je pense qu'on a raison aussi. Mais moi, je suis pas certain, pour aller vraiment à contre-courant, que l'IA et tout ce qu'on entend, ça va changer quelque chose. Enfin, ça fait, je pense, Cédric, qu'on a commencé chez KPMG en 2010, on nous disait, dans 5 ans, la saisie sera finie. Et là, aujourd'hui, on nous dit, ah, ça y est, dans 5 ans, la saisie sera finie. Bon, je suis curieux de savoir si dans 5 ans, la saisie sera vraiment terminée. Il y a la facture électronique qui va arriver, mais quand on voit ce qu'ils ont fait avec le guichet unique, pas certain que ça fonctionnera très bien. Donc je pense qu'on a quand même encore un peu le temps, même si honnêtement, avec tout ce qu'on voit avec ChatGPT, avec tout ce qui est possible, etc., je pense qu'on va pouvoir vraiment aller sur ces missions-là, et enfin arrêter ces missions de saisie, aller vraiment sur faire que du conseil en direction financière, faire que du management de transition, ce genre de choses. Mais honnêtement, moi, je suis pas aussi catégorique que le sont beaucoup de gens en disant dans 5 ans c'est fini, la saisie sera finie. Ça fait 20 ans qu'on le dit et c'est toujours pas le cas. Donc
ok, c'est presque un unpopular opinion, tu vois ce que tu
veux
dire.
C'est pour ça que je t'ai dit
intéressant.
Alors que je pourrais te tenir exactement le discours inverse d'un côté, mais j'ai envie d'aller à contre-courant.
Ah ouais, ok, noté.
Moi je pense que je suis pas aussi catégorique que le contre-courant de François là, mais je pense que tu auras toujours besoin de valideurs. C'est-à-dire oui. Que voilà, c'est t'as beau mettre la machine que tu veux, enfin la machine va faire des conneries.
Ouais. Hein,
au bout d'un moment, c'est elle réfléchit pas. Enfin, si elle réfléchit, on a intérêt à s'inquiéter parce que voilà, on a un vrai problème. Mais du coup, je pense que t'auras toujours des gens qui valident, toujours des gens qui ont besoin de faire, on va dire, de produire des bilans, etc. Sauf qu'effectivement, les prix vont réduire. Mais normalement, ton temps passé va aussi réduire. Donc, quelque part, ça va se suivre, mais t'en auras toujours besoin. Ça sera toujours ton produit d'accroche, je pense, honnêtement, pour connaître des gens. Ça sera cette obligation, parce que, mine de rien, je pense que sur la partie expertise comptable, si demain on te dit, l'État te dit, bon, on n'a plus besoin de faire déclaration fiscale, open bar, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui arrêteront même de produire, on va dire, des livres de compte ou des suivis. Ils auront leur petite tambouille à côté avec le compte bancaire et à faire classer. Mais je pense aussi qu'il faut justement réussir à proposer autre chose aux clients. Enfin, c'est tout bête, mais tu vois, la mission d'office manager, quelque part, tu rentres pas dans une très lourde technique, mais tu rends service à ton client. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça où on peut rendre ce service d'un point de vue administratif à notre client en restant toujours dans la partie finance. Je dis pas d'aller changer le papier toilette du client, hein. On est bien d'accord, mais sur la partie finance, je pense qu'il y a plein de choses à faire où tu as ton produit d'appel sur lequel qui sera pas cher à terme et ensuite tu développes le reste. Mais être uniquement, et là je te parle pas à 5 ans, je te parle plus à 10-15 ans, parce que j'ai un peu l'avis de François. Dans 5 ans, je pense qu'on sera pareil, enfin, on sera, si on se réunit dans 5 ans, on sera dans le même état
et on se réunira dans 5 ans,
voilà. Et mais par contre sur la partie, dans une grosse dizaine d'années, peut-être que ça changera effectivement, et que si on prend pas la bonne direction tout de suite, et que tu la prends 2-3 ans avant la fin, c'est fini, quoi. C'est un peu comme les caps qui n'ont pas été sur le digital, on va dire, sur les outils digitaux. Aujourd'hui, ils sont fichus.
Ouais. Donc, oui, le retard est très dur à choper, sauf à switcher d'un coup sur du full IA. Mais
t'imagines la culture d'entreprise que tu as quand tu passes de ton classeur. Moi, je l'avais vécu chez GVA sur la partie audit. Quand je suis arrivé, c'était des classeurs. Et en fait, j'ai vécu la transition du classeur au fichier Excel, on va dire, sans ramener le classeur. Je me souviens d'aller au Havre avec deux valises remplies de classeurs pour un client. Et l'année d'après, de venir sans classeur. Ça avait été quelque chose, hein. Ça avait été en termes d'organisation, les personnes qui étaient sur le dossier depuis 10 ans, qui faisait, on va dire, qui était en mode avec des classeurs, ne comprenait pas pourquoi il n'avait plus de classeurs.
Ouais. Ouais, forcément, ouais, t'as ce genre de switch.
Ouais, juste pour revenir, je pense que la techno va être vite prête, mais je pense que les gens ne seront pas prêts. Et quand je dis les gens, ce n'est pas juste les experts comptables, les comptables ne seront pas prêts. C'est les personnes dans les entreprises ne seront pas prêtes.
Ouais, les organisations.
Ouais. Ils ne seront pas prêts à voir ça et à comprendre comment ça fonctionne. Donc, moi, je pense qu'on est encore
en train de faire. De toute façon, tu le vois, les PME aujourd'hui ou les TPE, tu leur parles de facture électronique en leur essayant de vendre une mission en disant je vais te préparer à la facture électronique. Ils te regardent. Il y en a plein qui font encore leur facture sur Excel, quoi.
Oui, oui, bien sûr,
ça existe,
évidemment.
Donc, t'imagines l'univers pour ces gens-là. Ouais. L'univers, tu te dis.
Encore, t'en as qui les font papier encore.
Oui.
Ils ont le truc exactement. Exact compta, là.
Et... Ouais, ouais, exactement. Donc, t'imagines l'univers qu'il y a. Et on te dit, dans 3 ans, facture X, tout le monde est dessus. Ouais, jamais. Jamais. En dehors du fait que, techniquement, je rejoins François, quand tu vois ce qu'ils ont fait sur le guichet unique.
Ouais.
Sauf s'ils se préparent un peu mieux, mais honnêtement, je sens que ça va être drôle aussi, cette partie-là. Si tu enlèves que cette technique-là, même, oui, effectivement, les entreprises ne sont pas prêtes.
Bah, écoutez, t'es contre-courant, là.
Ouais, ouais, complètement. Gros, mais intéressant. Franchement, intéressant. Moi, je te rejoins sur le côté techno qui sera prêt, et peut-être que ça va mettre un peu plus de temps sur l'adoption.
La techno est forcément prête.
Mais ce qui est, du coup, je te rejoins sur ça, c'est que et donc votre sujet de formation, c'est que pour embarquer les équipes et que les équipes comprennent les changements, etc., c'est maintenant que ça se passe, quoi.
Ouais, après, ta difficulté, c'est de te dire, moi, je sais, par exemple, que parmi mes équipes, sur la mission de conseil, j'arriverai pas à embarquer tout le monde.
Ouais, tu peux pas monter ouais, tout le monde, quoi.
Tu t'arriveras pas. Enfin, même si t'as envie,
ouais, ouais,
t'arriveras pas parce que, techniquement parlant, ils peuvent lâcher, tu vois.
Et encore que nous, tu vois, on a quand même des gens qui sont jeunes, qui ouais, le digital, ça marche.
Bien sûr.
Moi, je vois dans plein de services comptables, les personnes qui ont entre 50 et 60 ans, mais Excel, ils arrivent pas à l'ouvrir. Un PC, c'est compliqué.
Ouais, ouais. Ouais, donc, il y a ChatGPT, tout ça. Tout
ouais,
ça.
Il y a ChatGPT. Déjà, Google, ils ont déjà du mal à comprendre le fonctionnement. Alors, ChatGPT,
step by step.
C'est dur.
Bon, alors, et du coup, dernière question maintenant. Si vous aviez une ressource, un livre, un podcast, une chaîne YouTube, ce que vous voulez, une vidéo qui pourrait permettre aux auditeurs qui nous sont encore avec nous maintenant de progresser ou de se faire plaisir, ce serait quoi?
Si c'est un expert comptable, je dirais que j'aime bien le podcast de Nicolas, du chiffre.
Ouais, excellent.
Beaucoup
podcast,
de,
Nicolas.
De valeur, plein de choses.
Podcast plus, que tu as fait.
Podcast que j'ai fait. En plus, c'est vrai qu'il interview plein de gens différents et tout. Donc, il y a vraiment plein de leçons à en tirer.
Ouais, il est vraiment génial.
Donc, ouais, je vais rester.
Et d'ailleurs, il vient.
Il vient.
On va faire un épisode ensemble.
Épisode inversé.
Épisode inversé, exactement.
Et moi, du coup, c'est un autre client. Je suis plus sur la partie. On va dire sur tout ce qui est podcast, etc. J'essaie de sortir du monde de la finance, on va dire, quand j'écoute quelque chose. Et on a un autre client qui s'appelle Bart, qui a un podcast qui s'appelle Extraterrien, qui est plus tourné sur le monde sportif.
Ok.
Que je trouve top parce qu'en fait, les sportifs en termes de management, enfin, tout ce qui est autour du sport en termes de management et de mindset, c'est 100 fois supérieur à l'entreprise. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, en fait, pour l'entreprise de ces gens-là.
Tu t'inspires de comment il fait pour pouvoir voir comment tu peux l'amener dans le monde de l'entreprise du cabinet, quoi.
Ouais, parce que quand j'avais fait mon mémoire qui était sur l'expertise comptable qui était sur le foot, justement, je m'étais rendu compte que ça, en fait, c'est que la gestion sportive d'un club sportif ou d'un sportif, en fait, on a beaucoup à apprendre sur cette partie-là. La partie administrative, ils sont zéro. On se dit honnêtement, ils sont zéro, mais sur la partie vraiment mindset, façon de manager,
ouais,
etc., ils sont super forts. Et du coup, quand j'écoute ces podcasts, c'est super, super intéressant.
Ok, bah écoute, on va mettre tout ça en description de l'épisode. Messieurs, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Écoute, c'était super cool. Moi, j'ai apprécié de. Ça faisait longtemps qu'on ne se voyait pas en plus.
C'est vrai.
Du coup,
merci d'être venu d'ailleurs jusqu'ici pour,
merci
pour
à
ce
toi.
Bon moment. Merci pour tout ce que vous nous avez partagé. Ravi que ça vous ait plu. Où est-ce qu'on peut vous joindre, communiquer avec vous, vous retrouver?
LinkedIn.
LinkedIn?
Après, téléphone, mais bon, je vais pas lâcher mon téléphone.
Non, tu vas pas lâcher ton téléphone comme ça. On va dire LinkedIn, c'est déjà
voilà, c'est déjà très bien.
Il répond jamais en plus.
Ok, donc bon, on met vos LinkedIn aussi en description. Merci encore à tous. Si vous êtes déjà avec nous jusqu'à maintenant, bah, c'est que cet épisode vous a plu et ça nous fait très plaisir. Vous connaissez la musique, hein, je crois qu'il faut mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les plateformes. Mais en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous puissiez le partager au plus grand nombre. Parce que quand on a un maximum de retours d'expérience comme ça, Eh bien, ça permet d'avoir des inspirations avec des éléments à mettre en place dans les cabinets d'expertise comptable. Être donc un peu plus heureux au quotidien, mieux vivre l'expertise comptable. Et en vrai, bah, c'est un peu pour ça que ce podcast existe. Donc, merci messieurs d'avoir partagé du caviar. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.
Ciao.
Ciao.